français parlent aux français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Le groove perdu va commencer.
¡Qué fiebre hay!
Salut à vous à la recherche du groove perdu, session numéro 339, émission musicale produite depuis 2011 et diffusée sur RDWA et Radio Saint-Férol dans la Drôme en Isère sur Radio Dragon, en Ariège sur Radio Transparence et sur Radio Saint-Afrique en Aveyron cette semaine. Après l'émergence et les pionniers du jazz, deuxième émission sur le son de la Nouvelle-Orléans et on va s'intéresser aujourd'hui aux fanfares qu'on appelle là-bas brass band ou marching band. Tous les détails historiques du jour sont signés Jean Buzelin, qui travaille entre autres pour l'excellent éditeur Frémo et Associés. Ils ont sorti en 2006 un disque intitulé Jazz Modern Brass Band First and Second Lines in New Orleans, qui regroupe des titres enregistrés entre 1990 et 2005. Voilà pour les sources, je vous plante le décor, musique Maestro. Devant une sorte de majordome qui a revêtu son habit du dimanche, redingote, cravate et chapeau melon, marche lentement en esquissant des pas qui indiquent la cadence, une sorte de chorégraphie simple mais précise qui rappelle le pas glissé qu'effectuaient les fidèles qui tournaient en rond durant les grands rassemblements religieux du temps de l'esclavage. Il porte l'écharpe aux couleurs de la fanfare et tient en main une ombrelle. Chez nous, on l'appellerait le tambour major. À la Nouvelle-Orléans, c'est le grand marshal. À quelques distances marche la fanfare en casquette et chemise blanche avec au premier rang les trombones et le sous-bassophone, suivi par les anches, saxophones et clarinettes, puis viennent les trompettes, la caisse claire et la grosse caisse fermant la marche. Les musiciens ne sont pas très nombreux, une dizaine, parfois plus dans les anciens brass bands, parfois moins chez les jeunes. Derrière eux, la seconde line, c'est-à-dire les parents, les amis, les voisins, tout le quartier suit les musiciens et accompagne le défunt sur la route du cimetière. Au retour, ils agitent les mouchoirs qui ont essuyé leurs larmes, brandissent leurs ombrelles et dansent pour honorer la mémoire de celui qui vient de les quitter. Ça se passe comme ça de nos jours et ça se passait exactement de la même façon il y a 200 ans. On écoute un premier morceau signé Eureka Brass Band, Sign On, un morceau qu'on entend beaucoup là-bas dans les marches funéraires. Pas de mélodie dramatique ni d'ambiance glauque ou plombante, on est bien ici dans une autre approche de la mort, une fête en l'honneur du défunt. C'est parti pour cette émission sur les brass bands de la Nouvelle-Orléans. Musique. We'll be right back. La première description d'un enterrement en fanfare à la Nouvelle-Orléans date de 1819, soit 2 ans après la légalisation par le conseil municipal des rassemblements et danses de noirs le dimanche sur la place de Congo Square. Mais il n'y a peut-être pas de cause à effet, il est difficile de savoir si cette fanfare était composée de musiciens noirs ou plus probablement créoles, les deux communautés ayant des statuts différents à l'époque. Nous ne savons pas non plus si ces marching bands sortaient leurs instruments uniquement pour les funérailles, s'ils donnaient des obades et des concerts ou, comme plus tard, animaient des cérémonies et des fêtes laïques ou religieuses, ou encore des parades comme celle du fameux Mardi Gras célébré pour la première fois en 1857. Deuxième morceau du jour, Indian Red du Tremé Brass Band.
Ohio, 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 Oh
1857, première célébration du Mardi Gras dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Quelques années plus tard éclate la guerre civile, la guerre de sécession, qui se déroula entre 1861 et 1865. Elle déchire le pays en deux. Et en 1862, les forces de l'Union prennent la Nouvelle-Orléans et deux ans plus tard, l'esclavage est aboli en Louisiane. La ville compte alors 210 000 habitants, dont 55 000 dits de couleur. À partir des années 1880, l'histoire est plus précise. On relève les noms de quelques brass bands dans les archives. Des brass bands qui avaient leur petite notoriété à l'échelle de la ville, par exemple le Kelly's Band, le Saint-Bernard Brass Band, le Saint-Joseph Brass Band ou encore l'Eclipse Brass Band. Blanc d'un côté, créole de l'autre et au bas de l'échelle, les noirs. Voilà la situation telle qu'elle fonctionne socialement et donc musicalement jusqu'en 1894 lorsque est promulgué le code noir qui touche de plein fouet les créoles de couleur. Ceux-ci avaient jusqu'alors un statut privilégié mais sont désormais obligé de quitter le centre-ville, le French Quarter, quartier français, et d'aller uptown se mélanger aux noirs. En 1896, la Cour suprême des États-Unis légalise la ségrégation raciale, laquelle prendra officiellement fin en 1954, mais pas dans les mœurs ni dans les faits, surtout dans le sud. On leur écoute une nouvelle fois le Eureka Brass Band Whooping Blues. Ce rapprochement forcé des musiciens noirs et créoles a pour conséquence une certaine mixité musicale qui s'installe dans les fanfares et dans les orchestres. Et ce rapprochement entre les musiciens créoles plus professionnels, bons lecteurs de la musique qui ne s'écartent guère de la partition, et les noirs qui, ne lisant pas la musique, jouent plus à la feuille, à l'oreille, constituera l'un des éléments qui provoquera la naissance du jazz New Orleans. Nous n'en sommes pas encore là, en 1898, lorsque l'armée solde un grand nombre d'instruments de musique, une aubaine matérielle pour la profusion des fanfares, mais bientôt d'autres types de formations, ainsi que l'évolution de la musique vers la danse et les salons, puis vers le jazz, relègue peu à peu les brass bands au second plan. Leur réputation ne dépassera alors guère les limites de la ville, tandis que nombre de musiciens vont quitter la ville, monter des orchestres dans les grandes métropoles du Nord, New York, Chicago, on en a parlé la semaine dernière, et ceux-là donc ont enregistré des disques et se sont fait connaître plus largement. Les deux principaux brass bands qui naissent dans la décennie 1910-1920 s'appellent le Tuxedo Brass Band, que dirige le trompettiste Papa Celestine, qu'on a écouté aussi la semaine dernière, et dans lequel joueront Louis Armstrong en 1921-1922, juste avant de partir rejoindre King Oliver à Chicago. Citons aussi le Melrose Brass Band, mais pas d'enregistrement pour ces deux fanfares, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun studio à la Nouvelle-Orléans avant 1945, date à laquelle s'est ouvert celui de Cosimo Matassa. Pourtant, plusieurs sessions d'enregistrement ont eu lieu en ville entre 1925 et 1930, lorsque les grandes compagnies débarquaient avec leurs matos itinérants et s'installaient pour quelques jours dans les grands hôtels de la ville. Lors de ces tournées sur le terrain, elles s'arrêtaient dans les grandes villes du sud, faisaient défiler derrière leur micro chanteurs, groupes vocaux, orchestres divers, le temps de graver plusieurs disques, et puis basta. Les brass bands qui jouaient dans la rue, eux, n'eurent pas cette chance. S'en écoute pour continuer le trémé brass band, It Ain't My Fault, ce n'est pas ma faute, et c'est parti. We'll be right back. Il faut attendre l'année 1945 pour qu'à la faveur de la vogue du New Orleans Revival soient enregistrés sur place les premiers témoignages sonores de brass band. D'abord, ce furent des rassemblements de circonstances, un Bunk's Brass Band dirigé par le trompettiste Bunk Johnson en 1945 et l'original Zenith Brass Band l'année suivante, composé de musiciens chevronnés et rompus à l'exercice. Ces enregistrements permettent de se faire une bonne idée du style de ces formations et de leur répertoire à cette époque. Deux morceaux pour continuer, In Glory Land, Bunk's Brass Band et Shake It and Break It. C'est parti. We'll be right back. Enfin, un vrai brass band régulier, l'Oreca Brass Band de Percy Humphrey réalise quelques disques en 1951. On en a écouté un extrait en début d'émission. Au moment où commence à poindre un relatif déclin pour ses musiques, ses fanfares sont toujours populaires dans les quartiers, mais totalement balayées médiatiquement par le rhythm and blues local florissant, emmené par Fats Domino. L'apparition d'un album du Young Tuxedo Brass Band en 1958, largement diffusé, fait presque office de document ethnique. Cette fanfare née avant la guerre, à la suite du premier tuxedo de Papa Celestine, et dirigée par le clarinettiste John Casimir, faisait en quelque sorte le lien entre les anciennes formations, dont le Eureka Brass Band, et les jeunes pousses des années 70. Une fanfare relève, passeur de témoins. On écoute le morceau Just a Clover Walk with Thee, le Young Tuxedo Brass Band.
Thank you.
recherche du groupe perdu, session 339, deuxième émission du cycle sur le son de la Nouvelle-Orléans. Et on s'intéresse cette semaine aux brass bands, les fanfares de rue dont la renommée et la qualité s'est traduite très tard par des enregistrements. Il a fallu attendre en effet l'année 1945 pour écouter la première fanfare gravée dans la cire. On continue le feed de l'émission, il était question du Young Tuxedo Brass Band qui au début des années 60 prend la tangente avec les fanfares plus traditionnelles, un son plus moderne, plus jazz, qui va engrainer toute une génération. Alors que les choses semblaient un peu figées, la Nouvelle-Orléans refait parler d'elle durant les années 70. Alain Toussaint prend une place centrale dans le monde de la musique. Les Neville Brothers deviennent des vedettes mondiales. La jeune poule du jazz est en train d'éclore autour de la famille Marsalis. Le New Orleans Jazz et Heritage Festival, fraîchement créé, sera bientôt l'un des principaux festivals américains. Bref, ce nouvel engouement pour le son de la Nouvelle-Orléans incite probablement à la formation de nouveaux brass bands comme le Hurricane Brass Band en 1973 et surtout le Dirty Dozen Brass Band 3 ans plus tard. Ce combo va réussir à jouer aussi bien le rhythm and blues, la soul music, le funk, le jazz, le bebop de Charlie Parker et de Thelonious Monk et d'en faire des véritables airs de brass band. Il faudra attendre 1984 pour les entendre sur disque et notamment cette super compo My Feet Can't Fail Me Now, qui sera aussi le nom de ce premier album, le Dirty Dozen Brass Band. We'll be right back. Dirty Dozen Brass Band qu'on vient d'écouter bouscule les conventions et donne de nouvelles couleurs aux rues et aux quartiers de la ville. Le groupe fait immédiatement des émules et les jeunes fanfares poussent un peu partout dans les quartiers. Le Chosen Brass Band de Tuba Fats en 1979, le Rebirth Jazz Band de Kermit Riffins qui enregistre aussi son premier album en 1984. Extrait de cet album d'un groupe majeur de la Nouvelle-Orléans. Le morceau s'appelle Here to Stay. C'est parti. Thank you. années 80 voient aussi fleurir d'autres formations d'envergure comme le Trémé Brass Band, la vieille cité du Croissant en compte des dizaines lorsque survient le 25 août 2005 l'ouragan Katrina qui balaye tout sur son passage avec le désastre urbain, humain et social qui s'ensuit. Les risques étaient connus, les digues cèdent et la Nouvelle-Orléans se retrouve sous les eaux sinistrées, démunie face à elle-même car largement abandonnée par les pouvoirs publics américains qui font preuve d'une incroyable carence face à l'ampleur du drame. Les États-Unis, première puissance mondiale, si rapide à intervenir aux quatre coins du globe pour préserver leur empire, semblent incapables de réagir face à cette situation. Après Katrina, c'est l'apocalypse. Les habitants désertent les lieux puis reviennent peu à peu pour retrouver les amis, déblayer puis reconstruire. La vie reprend et les brass bands reprennent eux aussi du service progressivement. La série culte Trémé qui raconte les premières tentatives de réorganisation et de reconstruction de la ville fait la part belle justement à ces musiciens rescapés et en particulier aux fanfares. Si vous ne la connaissez pas, je la recommande vivement et si vous voulez vous immerger dans cette ambiance de marching band typique de la Nouvelle-Orléans, c'est la meilleure introduction à cette culture. On se quitte avec deux morceaux, Keep It Funky du Hot 8 Brass Band et enfin un morceau sous forme de bouquet final où on retrouve les meilleurs fanfares actuels de la ville. Elles jouent tous ensemble sur ce morceau. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer ce cycle sur le son de la Nouvelle-Orléans. Et il sera question de, pendant une heure, des Indians Mardi Gras, autre facette importante de la culture New Orleanaise. Pardon. À la semaine prochaine, donc, passez du bon temps. C'était À la recherche du groove perdu. Ciao. Oh!
Ah!